Bonjour. Tout le monde va bien? Tout le monde va bien?
Oui.
D'accord, ça m'en réjouit. Alors c'est vrai que j'avais demandé, puisqu'on me l'a proposé, qu'on puisse lire ce fameux texte de Daniel, chapitre 9. Daniel, c'est un livre que je réaborde dans ma lecture journalière ces derniers temps. Alors, je vous l'ai peut-être déjà dit, je me donne l'occasion avec Annette tous les soirs de lire un chapitre par jour et dans une lecture suivie de Genèse à l'Apocalypse, et puis après je reviens à la Genèse. Ce qui est toujours intéressant, c'est que ça nous oblige à lire des passages qu'on n'a pas toujours envie de lire. Et le livre de Daniel, ce n'est pas toujours notre livre favori, pas plus que l'Apocalypse et d'autres. Si je reviens à Daniel, malgré tout, je pense que dans la majeure partie des églises, à l'école du dimanche, on va parler d'un certain nombre d'histoires qui sont mentionnées donc à propos de notre cher Daniel et de ses trois amis. Parce que Daniel a vécu des choses assez extraordinaires. Et donc, en tant qu'être humain, on est toujours fasciné. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, je reste toujours fasciné par des hommes et des femmes qui ont vécu des choses assez extraordinaires. Des gens qui sortent un peu de la vie courante. Que ça soit du point de vue biblique, c'est vrai, j'aime beaucoup parler d'Abraham, de Moïse, Daniel et d'autres. Je pense que dans nos livres d'histoire, c'est aussi ce que nous allons faire, parler donc de personnages bien particuliers. J'étais dernièrement à une inauguration, et on a inauguré une fresque à Villers sur un bâtiment d'une MJC. Et là, cette fresque était quand même assez extraordinaire parce qu'il y avait la tête d'un certain nombre de personnages connus, très connus même. Il y avait effectivement l'abbé Pierre, mais un certain nombre de personnages qui ont reçu ou qui étaient prix Nobel de la paix, dont Nelson Mandela, Mère Teresa, Martin Luther King et bien d'autres. Et je me suis dit, c'est vrai, ces gens ont marqué l'histoire. Ils ont marqué l'histoire. La parole de Dieu va nous toucher par d'autres personnages aussi. Je suis toujours fasciné par l'histoire de Ruth, Moabite, qui tout d'un coup est devenue quand même une des ancêtres de Christ. Fasciné par l'histoire d'Esther. Esther qui est devenue reine par sa beauté et qui a joué un rôle capital pour le peuple juif. Je suis fasciné par Abraham, un homme qui ne savait pas là où il allait, mais qui suivait Dieu et qui a vécu des expériences assez extraordinaires. Je disais tout à l'heure, je suis fasciné aussi par Moïse. Moïse que Dieu a appelé à vivre quelque chose de, je dirais, qui a amené une vraie transformation pour le peuple hébreu. Il y est allé malgré lui. Mais il a vu la main de Dieu en permanence avec lui, ouvrir la mer Rouge, il a vu la main de Dieu le conduire dans le désert, faire manger et boire un peuple pendant 40 ans en plein désert, etc. Je trouve ça extraordinaire. Et puis d'autres personnages qu'on pourrait citer aussi, et vous les trouverez dans Hébreux 11 en particulier, donc ces galeries des hommes et des femmes de foi. La question que je me suis posée, mais quelle est la vie courante de ces hommes ? Et de ces femmes. Sont-ils des gens extraordinaires, supra-extraordinaires? Est-ce que ce sont des gens hors pair, par leur intelligence, par leur culture, leur savoir-faire, par leur ténacité, par leur contexte familial, peut-être même par leur manque de famille? Est-ce que c'est des gens qui tout simplement ont eu de la chance? Ils sont arrivés au bon moment, au bon endroit? C'est quoi la vie de Daniel? C'est quoi la vie de Ruth, d'Esther, de Jacob, d'Abraham, de Moïse? Quand on en lit ce qu'on en trouve dans la parole de Dieu, on se dit que d'abord c'était des hommes et des femmes comme les autres. Mais ce que j'aimerais voir ce matin, je vous amènerai à la fin de ce message sur 7 points particuliers que je vais retrouver là, notamment dans la vie de Daniel. Je le mentionnais, on aimerait nous-mêmes vivre des choses extraordinaires. Quand je repense à cette prière de Daniel, je ne peux pas enlever de mon esprit des passages comme la fosse aux lions. Je ne peux pas passer à côté de la fournaise ardente. Je ne peux pas passer à côté de ces moments impressionnants où Daniel a interprété un certain nombre de songes. J'ai souvent dans l'église, parce que nous avons pas mal d'Africains et aussi d'Asiatiques, mais au niveau des Africains, ils viennent souvent me voir et me dire « Écoutez, pasteur, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à comprendre ? J'ai rêvé cette nuit. » Enfin, c'est bien. Tant mieux pour vous. Moi, mes rêves, je ne m'en souviens jamais, sauf cette nuit, j'ai rêvé. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais tout d'un coup, je me suis réveillé en me disant « C'est pas vrai, il est midi, j'ai oublié d'aller à Darnay. » Véridique. Donc, moi, je sais que tout à l'heure, entre Vittel et Darnay, il y a quelqu'un qui m'a coupé la route, qui m'a refusé la priorité à droite. Merci Seigneur, je ne suis pas ici, mais quand même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est vrai, il y a souvent des gens qui viennent nous voir, j'ai eu un rêve, qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je ne sais pas. Daniel est allé encore plus loin. J'ai eu un rêve, je ne vous dirai pas ce que c'est que le rêve, dites-moi ce qu'est le rêve et donnez-moi-en l'interprétation. Joseph, enfin, etc. Tout ça me paraît supra-extraordinaire. C'est une dame qui m'a écrit, puisque je suis délégué du site connaître-dieu.com, donc au travers du site, elle m'a écrit, et après quelques échanges, elle a commencé à me dire « Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à vivre des choses comme Abraham, comme Moïse, et notamment l'interprétation des songes, la connaissance très claire de la volonté de Dieu pour ma vie. Pourquoi moi je n'ai pas ça ? Ça fait un an que je lis la Bible et je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me répond pas. » Alors quand elle m'a parlé de tous ces exemples, j'ai pu lui dire très gentiment « Oui, c'est vrai. » Abraham a vécu des choses assez extraordinaires et Dieu l'a interpellé à plusieurs reprises, quelques reprises. Je n'ai pas besoin de mes deux mains pour noter le nombre de fois où Dieu est venu parler directement à Abraham, mais il a eu ça en l'espace de 175 ans. D'accord ? Ça fait un an que vous lisez la Bible. Je n'ai pas osé lui dire « j'ai jamais vécu ça », mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Assez étonnant nos attentes, assez étonnant. On aime bien ces choses assez extraordinaires. Alors Daniel, on va juste brosser son portrait très rapidement et c'est un collègue qui va écrire. Nous sommes dans l'année 605 avant Jésus-Christ, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, assiège Jérusalem. Donc vous avez tous ces passages dans 2 Chroniques 36, 2 Rois 24, etc. Trois déportations successives emmèneront l'élite de Juda à Babylone. Lors de la première étape de la conquête babylonienne, un cortège de 10 000 captifs accompagne le roi vainqueur qui ordonne alors à son chef des eunuques de choisir quelques ressortissants de race royale et de famille noble. Ils devront servir dans son palais après avoir été enseignés selon les lettres et la langue des Chaldéens. C'est ainsi que Daniel, Anania, Michaël et Azaria sont contraints à quitter foyers et patries pour s'initier à la science et à la culture des Chaldéens. Daniel et ses compagnons sont donc les innocentes victimes de bouleversements internationaux. Les voici exilés, livrés aux caprices d'un dictateur qui fait trembler le monde, écartés définitivement de la cour royale de Juda, plongés dans une situation peu enviable, à des centaines de kilomètres de leur ville natale. Les connaissances qu'ils doivent acquérir sont contraires aux aspirations de leur cœur. Ils sont astreints à une religion totalement différente de la leur. Mais Daniel ne se décourage pas. Avec son Dieu, il fait face à l'adversité et ses circonstances deviennent le tremplin de sa foi. Et là, ils vont citer trois points particuliers. Du point de vue humain, Daniel avait tout perdu, mais il a appris très jeune à s'appuyer sur les promesses de son Dieu. Ce fut là son secret. Il aurait pu renier sa foi, secouer le joug des traditions ancestrales, rejeter la religion de ses pères sous prétexte qu'elle ne lui servirait plus à rien. Deuxième, Daniel était placé devant une alternative, subir l'événement ou le considérer à la lumière de l'Écriture. En se plaçant sur le terrain sûr des promesses de Dieu et des prophéties, Daniel vit la captivité comme un châtiment divin prévu de longue date et rendu nécessaire par les déviations d'Israël. 1000 ans avant la déportation à Babylone, Moïse en avait déjà parlé. Deutéronome 31, versets 16 et 17. C'était prévu. Puis Salomon va le confirmer dans 1 Roi chapitre 8. Et tandis que toutes ces prédictions s'accomplissaient, le Dieu des cieux mesurait l'épreuve et en contrôlait le cours. Troisième chose, un siècle après, Dieu chargeait Jérémie d'interpréter de sa part les événements publics. Si les armées babyloniennes triomphaient sous toutes les latitudes, c'est que l'Éternel leur en avait donné l'autorisation. Et ça, c'est la chose que j'ai toujours du mal à digérer. Comment Dieu a pu-t-il permettre une chose pareille? Et c'est ce qu'on va encore découvrir dans le livre d'Habacuc, où Dieu va montrer à Habacuc que c'est lui qui est allé chercher les pires ennemis du peuple d'Israël pour effectivement donner la leçon au peuple d'Israël afin que ce peuple puisse revenir à Dieu. Dieu a été obligé d'utiliser les ennemis de son peuple pour remettre son peuple dans le droit chemin. Alors ce que j'aimerais voir ce matin, après avoir été assez vite sur la présentation de Daniel, j'aimerais revenir sur 7 points. Il y en a peut-être d'autres, c'est mon interprétation personnelle, donc vous avez le droit d'ajouter, de supprimer si vous voulez. Mais le premier point me paraît très important et nous n'en avons pas toujours conscience. S'il te plaît, voilà. Il ne faut pas oublier que Daniel n'est pas dans son pays. Il est à Babylone. Et étant à Babylone, il aurait pu, comme on le disait tout à l'heure, se dire « Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. » Nous, on le sait, on a du recul. Mais il faut prendre conscience que Dieu voit partout, même dans les endroits jugés être les plus insolites qui soient. On va revenir à une autre histoire que vous connaissez bien, l'histoire de Jacob, pour illustrer un peu cette pensée et comprendre ce qui peut se passer dans la tête de personnes, hommes et femmes de Dieu, qui ont été exilés. L'histoire de Jacob, Jacob fuyait son frère. Et quand on a suivi un peu l'histoire de Jacob, on comprend assez rapidement que dans sa fuite, en allant vers chez Laban, son oncle, il s'est arrêté à un moment donné, on dit à peu près à 100 kilomètres de chez lui, et il s'est reposé. Il a pris une pierre, il s'en est servi comme oreiller, et pendant qu'il dormait, lui aussi a eu un rêve très particulier. Vous savez, c'est l'histoire de cette échelle où il y avait des anges qui montaient et qui descendaient, et Dieu qui a parlé directement à ce fameux Jacob. Genèse chapitre 28. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à ce moment-là, Jacob s'est réveillé. Et là, il a plus peur. Et au verset 16 de Genèse 28, il est dit « Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Comment peut-on imaginer une telle chose? Il faut bien se dire qu'à cette époque-là, Jacob était sans Dieu, il vivait dans la pensée un peu familiale, malgré le fait que quand il a entrepris sur le bon conseil de sa mère, quand il a entrepris ce fameux voyage, il avait quand même pas loin de 75 ans. Et sa mère lui avait quand même dit « Va chez mon frère, c'est là-bas que tu pourras trouver une femme à marier. » On se marie à 75, ah, ça nous fait rire à nous. Ça nous fait rire. Et pourtant, c'est la réalité. Son frère s'était marié très très jeune, puisqu'il s'était marié à 40 ans. C'est bien des fois de recadrer un petit peu les choses. C'est là que tout d'un coup, Jacob a réalisé que Dieu était à un autre endroit que dans le cocon familial. C'est là qu'il va prendre la pierre dont il s'était servi comme oreiller, il va la dresser et ils vont construire, dit-on, un autel, et il a appelé ce lieu Bethel, Bethel qui signifie la maison de Dieu. C'est là qu'on dit aussi que notre fameux Jacob a commencé à prendre une caractéristique un peu particulière. Il a compris que la religion était utile. C'est un rituel. On dresse un autel et on donne ce nom, on donne un nom à cet autel pour souvenir. Daniel. Daniel était où ? Daniel était à Babylone. Et Babylone, c'est quoi ? C'est une ville. Une ville qui a été construite à l'endroit même où on a tenté de construire la tour de Babel. La tour de Babel où les hommes pensaient, à ce moment-là, être plus grands que Dieu. Et c'est là où Dieu les a séparés en leur donnant de parler des langues différentes. Dieu était donc bien à cet endroit, à Babel, parce qu'il y avait Daniel et ses compagnons qui étaient là bien présents. Il nous faut réaliser nous-mêmes que quand nous sommes baignés dans des endroits qui nous paraissent difficiles en dehors de l'Église, Dieu est aussi là. Dieu est au boulot, même si le boulot c'est un calvaire. Parce que je reconnais que pour certains, c'est pas parce qu'ils en ont marre de travailler, mais les conditions du travail ne sont pas toujours évidentes. Même si le boulot est un calvaire, même si vous avez l'impression de n'être là qu'avec des incroyants, et c'est souvent, très souvent le cas, Dieu est quand même là. Dieu est quand même là. Dieu est quand même là, même si nous sommes de l'autre bout du monde. Dieu est quand même là avec nous quand nous sommes en famille et que notre famille n'est pas chrétienne. C'est ce que j'ai vécu toute ma jeunesse. Et je peux dire, Dieu est resté là, à mes côtés. Il reste à nos côtés, là où nous sommes. Et nous savons aussi que nous ne pouvons pas nous cacher de Dieu. Où que nous soyons enfermés, où que nous soyons perdus, plus du tout à la vue de tout le monde, Dieu nous voit. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que dans l'histoire de Daniel, il était donc à l'extérieur, à la cour du roi, il était là pour servir le roi. Et Daniel, il a quand même gardé son éthique biblique malgré l'environnement hostile. Si je revenais au début du livre de Daniel, Daniel 1, versets 8 et 9, que je vais vous lire là rapidement, où il est dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Alors, quand on lit un petit peu le texte, on comprend assez rapidement que Daniel avait choisi de manger certaines choses et pas d'autres. Comme on dirait, il ne mangeait pas du pain et de l'eau, mais des pommes de terre et il buvait de l'eau. Alors on s'est dit, certains se sont dit, oui, je vais copier la manière de manger de Daniel et je vais éviter tout ce qui est des boissons alcoolisées. Je ne mangerai pas d'animaux, etc. Je deviendrai donc végétarien, végétalien. Ou alors, et ça j'ai encore appris, mais ça vous le connaissez peut-être depuis longtemps, je deviendrai végan. Je ne savais pas que végan ça existait. Végan, je ne savais pas. Alors végan, alors j'ai dû chercher. Le véganisme implique d'abord d'être végétalien, c'est-à-dire pas de viande ni de poisson, comme pour le végétarisme simple, mais aussi pas de produits laitiers, pas d'œufs, etc. Et de ne pas s'habiller avec du cuir ou de la fourrure, éviter d'utiliser des produits testés sur les animaux, surtout dans la mesure où il existe des alternatives. C'est pas moi. Merci Seigneur, je me permets de manger tout ce qui se vend sur le marché. Enfin, tout ce que mon épouse achète sur le marché, c'est plus exact. C'est plus exact. On peut avoir des pensées différentes. Je pense que le livre de Daniel ne nous enseigne pas d'être végétalien ou végétarien ou végan. Là, dans la situation de Daniel, Daniel avait choisi de ne pas se souiller avec effectivement des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles, et là il ne voulait pas les manger. Paul va parler de cela aussi. Paul dira que moi, je n'ai pas de sélection à ce niveau-là, sauf dans la mesure où la personne qui mange avec moi est au courant que ça a été destiné aux idoles, et là, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. C'est tout ce que Paul va nous enseigner dans ses épîtres. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font beaucoup d'efforts pour essayer d'être propres à l'extérieur. Je ne mangerai pas de ceci, pas de cela, je ne m'habillerai pas comme ceci, pas comme cela, etc. Mais je trouve quelquefois que ces mêmes chrétiens ont une pureté intérieure qui laisse à désirer. Et tout ce qui concerne le pardon, le fait d'être en règle avec les autres, etc., ça, on met plutôt de côté et on essaye de paraître bien à l'extérieur. Le Seigneur va faire le même reproche aussi aux pharisiens. C'est aussi à moi de faire attention dans ce domaine. Le paraître et l'être, il y a des choses que nous avons aussi à voir. Le troisième point que j'aimerais voir et qui m'a repris ces derniers temps est le point suivant. En pays étranger et de passage, Daniel l'était, mais il était sérieux dans tout ce qu'il a fait, et il a fait toutes choses comme pour le Seigneur. Il aurait pu dire, je suis là chez l'ennemi, j'en ai rien à faire, je vais jouer à fond le sabotage, je vais y aller, de toute façon, mon seul objectif c'est de rentrer dans mon pays. Non. Quel témoignage quand nous pouvons travailler, même avec les non-chrétiens, puisque le Seigneur nous appelle à travailler ainsi, sans mentir, sans voler, sans tricher, comme les autres. Pas évident, pas évident. Je vois des jeunes frères et sœurs dans l'Église qui luttent par rapport à ça, et qui disent, mais le patron me dit d'eux, ou tout le monde fait comme ça, qu'est-ce que je dois faire? C'est une vraie lutte. Colossiens 3, 22 à 24, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Je vous ai peut-être déjà cité, excusez-moi si je l'ai fait déjà plusieurs fois, mais c'est le docteur Vary de Thionville qui m'a beaucoup appris à ce sujet. Et ce docteur est musicothérapeute en gériatrie, et il a dit dans une soirée conférence que nous avions à l'église à Villers, il a dit, des chrétiens s'étonnent de ne pas être entendus, comprenez, entendus par le gouvernement ou par leurs proches, et pensent que c'est parce qu'ils sont chrétiens. J'ose dire que si vous faites bien votre travail et que vous avez réellement des choses à proposer, même les non-chrétiens vous écouteront et vous suivront. C'est comme ça que j'ai fait construire une aile de bâtiment spécifique pour la musicothérapie à Thionville et à Metz. Il est chrétien, il s'affiche en tant que tel, il n'en a pas peur, mais il dit de l'autre côté, j'ai quelque chose à proposer. Et c'est ce qu'il a fait. Apparemment, la musicothérapie, c'est connu un peu partout maintenant, mais c'est vrai qu'il a été dans le développement dans notre quartier, je dirais. Quand je reviens à Daniel chapitre 6, verset 4, je vois en particulier un Daniel où les non-chrétiens pouvaient dire « ce gars, il est irréprochable dans son boulot ». Il est dit au verset 4 « mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce que Daniel était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais ». Moi j'aimerais, mais ça c'est un doux rêve, que les gens disent la même chose de moi. C'est vrai, il a toujours bien fait son boulot. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours la réalité, et c'est dommage. Quatrième. Loin du temple, loin de l'église, mais toujours engagé spirituellement, sans changement. Et on le voit là dans Daniel 9. Je le mentionnais, Babylone, c'est le summum du péché. C'était connu, cette ville était connue pour cela. Babylone, elle est restée donc dans le même esprit qu'elle n'était quand on a construit la tour de Babel. Et l'objectif de la tour de Babel, c'était supplanter Dieu. C'était ça le véritable objectif. Mais Daniel, lui, il va continuer à prier. Il va prier pour son pays. Et il va agir en même temps pour son pays d'adoption. Daniel, il va toujours rester avec le même engagement. Il est dit dans chapitre 6, verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Ça l'a amené directement à la fosse aux lions. Je me suis dit que personnellement, j'étais aussi dans un pays d'adoption, la France. Je suis français, mais je ne suis que de passage ici, je le sais. Je le sais. La France, et puis je suis aussi dans la nouvelle Europe, c'est ça qu'on doit dire, puis je dis. Je vais pas mettre le feu aux poudres là. Je peux penser ce que je veux des dirigeants que je peux avoir dans mon pays, mais combien de temps est-ce que je passe pour prier pour mon pays comme Daniel le faisait pour le sien ? Daniel priait pour son propre pays trois fois par jour, et je pense de la même manière. Daniel priait aussi pour Babylone. Daniel priait pour le pays dans lequel il était placé, contre sa volonté, contre son gré, mais Daniel continuait à prier. Est-ce que moi j'arrive à prier pour la France comme Jonas? Alors lui, c'était plus que prier, il a fait le tour plusieurs fois, mais comme Jonas a prié pour Ninive, il a agi pour Ninive, et tout d'un coup, il a vu un changement réel, puisqu'il est dit que tout Ninive s'est repenti de sa situation de péché. J'arrive pas toujours à imaginer que la France va se repentir. Vous y arrivez, vous? Ils sont descendus tellement bas. Je dis bien toujours « ils », parce que c'est les autres, hein, c'est pas moi. C'est comme dans les matchs de foot, hein. C'est « on a gagné et ils ont perdu ». C'est toujours comme ça. Même si c'est toujours la France. Mais enfin, bon, c'est ainsi. Un autre point, je l'ai mis en orange. Vous voyez peut-être pas là, si? Ça se lit quand même. J'y pense pas à chaque fois. Mais Daniel, chapitre 9, qu'on a lu tout à l'heure. On a dit que Daniel est un homme de prière et un homme de foi. Et j'oserais dire, mais le texte ne le dit pas, donc là c'est moi qui le dis, un homme selon le cœur de Dieu, comme David. Mais ce qui me touche, c'est que c'est un homme qui va s'identifier au péché du peuple. Il va s'identifier au péché du peuple. Vous avez remarqué dans ce passage que il n'a pas dit « c'est les autres qui ont péché ». Il va s'identifier au péché de son peuple. Et il va aller jusqu'à dire « mais Seigneur, pardonne-moi, comme tu pardonnes aussi au peuple, pardonne-nous, pardonne-moi ». Moi, je suis impressionné. Seigneur, l'Église, elle va mal, mais c'est de leur faute, je leur avais dit. Alors fais quelque chose, permets-leur qu'ils comprennent. Mais Daniel et Moïse vont faire exactement la même chose. Moïse va toujours, alors qu'il était en dehors de ça, le peuple a même péché quand Moïse n'était pas là. Et Moïse va dire, nous avons péché. Jusqu'à quel moment on arrive à passer ce pas pour aller dire, je suis solidaire avec eux. Alors, il y en a un autre qui a dit, solidaire mais pas responsable. Je suis solidaire. Jusqu'où je vais aller dans ce domaine? Quel courage, quelle abnégation de la part de Daniel. Ça m'a ramené tout de suite à Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ s'est fait péché pour nous. Il aurait pu dire, c'est eux, c'est pas moi. Il va s'identifier au péché. Impressionnant. Sixième, Daniel n'a pas vécu un cavalier seul. Il avait trois amis. Et avec ses trois amis, il a toujours joué la solidarité et la fidélité. Il faut dire aussi qu'à plus d'une reprise, il les a mouillés. Et là aussi, moi je dis à Daniel, quelle confiance les amis pouvaient avoir en lui. Et quelle confiance lui, il avait aussi en ses amis. Quelle confiance il avait en Dieu. Pour pouvoir dire, le roi peut me demander toutes ces choses-là, particulières, moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je refuse. Je refuse d'aller me plier devant de plier le genou devant la statue. Je refuse. Ça ne convient pas avec la parole de Dieu et avec le culte que je rends à Dieu. Et c'est sa manière de refuser qui l'a conduit à vivre des expériences assez extraordinaires. Il voulait suivre Dieu et Dieu l'a suivi aussi. Dans tous les moments où Daniel aurait pu être réduit complètement au silence, c'est à ce moment-là que Dieu est intervenu. Les lions n'ont pas ouvert la gueule. Il est toujours sorti vivant. Et il est sorti plus fort qu'il n'a jamais été auparavant au travers de ses différentes expériences. Je ne dirais pas comme certains que peut-être qu'il nous faudrait être un peu plus dur et un peu plus manifeste dans notre foi pour voir Dieu agir. Des fois j'y pense. C'est au travers de ces expériences fortes que Dieu s'est réellement révélé vis-à-vis des personnes qui en voulaient à sa vie. Le dernier point que je vais vous mentionner, c'est que dans sa prière, dans ce chapitre 9, dans sa prière, il a quelque chose d'assez étonnant. Il va rappeler la loi de Dieu dans sa prière. Il s'est identifié à son peuple et au peuple, au péché du peuple, mais de l'autre côté, il va rappeler la loi de Dieu dans sa prière. Alors j'ai mis dans mes notes, c'est bien de rappeler la loi de Dieu à Dieu, encore faut-il la connaître. C'est aussi une bonne chose qu'on a quelquefois oubliée. Mais j'aime ces hommes et ces femmes qui, dans leur prière, ont pu revenir sur un certain nombre d'éléments. Seigneur, tu avais promis dans ta parole, alors je te demande, fais-le, fais-le. Et ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. On va voir dans cette prière une véritable structure qu'on va retrouver aussi dans le Notre Père, qu'on va retrouver aussi dans des prières comme dans la prière de Néhémie. Et on va retrouver dans un premier temps, verset 4, une louange à Dieu. On va trouver du verset 5 au verset 12 une demande de pardon pour lui et pour son peuple. On va trouver donc dans verset 13 à 15 le rappel de la parole de Dieu. Et puis c'est seulement tout à la fin, verset 16 et 19, où il va vraiment aller jusqu'au bout, l'objet de sa prière. L'objet de sa prière. Une prière très structurée. Jésus ne nous a jamais appelés à prier le Notre Père en permanence, mais de reprendre le Notre Père comme étant une structure que nous pouvons adopter. Je vais remercier notre sœur qui nous a rappelé ça ce matin. C'est vrai, dans mes prières, je pense souvent à prier pour ce qui ne va pas dans ma vie. Dans ma vie d'abord. Et si je ne suis pas endormi avant, je pense aux autres. Et puis, si vraiment c'est le must, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné pour cette journée. Et là, c'est étonnant, il commence souvent à l'envers. Il commence par louer le Seigneur. De remettre le Seigneur là où il est, vraiment, mais dans sa prière, comme une véritable louange, une demande de pardon, le rappel de la parole de Dieu est l'objet de sa prière. Je termine en disant que c'est tout à la fin. Et je vais faire le lien avec ce que je disais la dernière fois que j'étais ici. On va faire de nouveau appel à quelque chose d'un peu particulier, l'ange Gabriel ou l'archange Gabriel qui est venu parler et lui dire, donc, verset 21. « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Moi, je trouve ça extraordinaire. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit après. Même si Daniel l'a expliqué, je n'ai pas compris. En conclusion. Dans toutes ces expériences et toutes ces épreuves, Dieu sera toujours mis à l'honneur. Dieu sera toujours mis à l'honneur. Et on va lire, comme point d'orgue, ce passage de Daniel 6, versets 25 à 28, où il est dit, « Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. J'étais parti en vous disant, Daniel aurait pu croire que Dieu n'était pas là-bas à Babylone, parce que c'était un Dieu exécrable. Et on arrive tout à la fin pour dire, c'est ce Dieu qui a délivré Daniel de la puissance des lions, et Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Extraordinaire! Cette confiance, combien cette confiance de Daniel en son Dieu était quelque chose qui a payé pour que le peuple puisse reconnaître qui est vraiment ce Dieu des cieux que nous servons. Amen. Seigneur, nous sommes dans un monde dans lequel tu nous as placés toi-même. Et tu nous as dit que tu ne voulais pas nous retirer de ce monde. Mais ton objectif, c'est que nous puissions être tes témoins, tes lumières, le reflet de ta lumière, pardon, dans ce monde dans lequel tu nous as placés. Permets que nous sachions prier dans le même sens que Daniel, en sachant que tu peux nous amener à cette même finalité que Daniel a pu vivre, que au travers, Seigneur, de notre manière d'être chrétien, au travers de notre manière de vivre, que le peuple qui nous entoure puisse reconnaître que tu es le Dieu vivant qui veut intervenir encore aujourd'hui et que tu dois être servi et tu es le seul qui doit être servi à l'intérieur de ce monde. Garde-nous dans notre manière de vivre avec toi, jour après jour, dans le monde dans lequel tu nous as placés.